Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Romain Ozoui.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est votre rendez-vous sur l'antenne de RFI. Vous nous posez vos questions sur l'actualité et nos confrères et experts vous répondront. Et puis dans la seconde partie de l'émission, notre débat ce matin, nous évoquerons la question des obsèques d'Étienne Tshisekedi, le rapatriement du corps de l'opposant historique qui était prévu ce jeudi. Ce rapatriement a été retardé pour des raisons logistiques, mais déjà des critiques se font entendre sur le coût de l'hommage à Étienne Tshisekedi qui se déroulera sur plusieurs journées, entre 2 et 6 millions de dollars, indique-t-on. Est-ce que c'est trop? Ou est-ce que, selon vous, finalement, rien n'est trop beau, rien n'est trop grand pour le chef historique de l'opposition en RDC? Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Et puis la page Facebook de l'émission pour nous écrire. Je ne manquerai pas de relayer certains de vos messages à l'antenne. Mais d'abord, vos questions à la rédaction et la première de Kevin. Bonjour Kevin.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous nous appelez Kevin de Kinshasa. Votre question?
En fait, en Israël, le premier ministre Netanyahou est dans l'impasse puisqu'il n'a pas réussi à former un gouvernement et faute d'accord, de nouvelles élections vont être organisées. Alors, j'aimerais savoir, Netanyahou espérait former un gouvernement de coalition avec son ancien ministre des Défenses, Lieberman. Qu'est-ce qui a bloqué la formation de gouvernement entre ces deux hommes? Et les nouvelles élections de septembre peuvent-elles profiter à l'alliance Benny Gantz?
Alors effectivement, c'est l'actualité de la nuit. Hein. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui n'est pas parvenu à former une coalition de gouvernement. Il avait jusqu'à minuit hier soir pour le faire. Donc il va y avoir en Israël de nouvelles élections législatives. Ce sera au mois de septembre. Alors pour bien comprendre la situation, pour répondre à votre question, Kevin, nous sommes en ligne avec le correspondant de RFI en Israël, Guilhem Deltey. Bonjour Guilhem.
Bonjour Romain, bonjour Kevin.
Alors Guilhem, pour justement répondre à la question de Kevin, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a empêché finalement la formation d'un gouvernement de coalition donc entre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman?
Alors en fait, c'est sur la réforme du service militaire des ultra-orthodoxes que les négociations ont achoppé, qu'elles ont véritablement buté au cours de ces dernières semaines. Les ultra-orthodoxes, c'est une communauté israélienne, juive, très pratiquante, qui respecte scrupuleusement les règles du judaïsme et qui bénéficiait d'une exemption historique pour le service militaire. Elle avait été accordée, cette exemption, par le père fondateur d'Israël, David Ben-Gourion, mais le poids démographique de cette communauté a nettement augmenté au cours des années depuis 1948 à la création d'Israël jusqu'à aujourd'hui, et les Israéliens laïcs ou pratiquants mais pas ultra-orthodoxes, eh bien eux voient cette exemption finalement comme un fardeau, parce que eux sont obligés de faire le service militaire et qu'ils voient que les jeunes de leur génération mais qui sont ultra-orthodoxes ne peuvent bénéficier d'une exemption. La procédure, enfin c'est ce débat autour du service militaire des ultra-orthodoxes a été jusqu'en justice. Il y a une décision de la Cour suprême qui a tranché, qui a statué qu'il y avait effectivement une rupture d'égalité entre les citoyens, entre ceux qui doivent obligatoirement faire leur service militaire, un service militaire qui est long, hein, un peu moins de 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les femmes, et cette communauté qui, elle, en était exemptée. Elle a donc demandé au gouvernement de préparer une réforme du service militaire pour inclure plus d'ultra-orthodoxes dans l'armée. Cette réforme a été adoptée en première lecture il y a quelques mois, donc sous la législature précédente. Elle avait été préparée par le ministère de la Défense à l'époque où Avigdor Lieberman était le ministre de la Défense. Elle prévoyait des quotas d'ultra-orthodoxes qui devraient servir dans l'armée. Adoptée en première lecture, elle a ensuite été mise de côté après la démission d'Avigdor Lieberman, repoussée jusqu'à après les élections. Avigdor Lieberman en faisait un point d'honneur désormais pour rejoindre le gouvernement, que cette réforme soit adoptée définitivement dans la version dans laquelle elle avait été adoptée en première lecture, sans changer la moindre virgule, alors que les partis ultra-orthodoxes, eux, dont le poids a nettement augmenté dans la nouvelle Knesset, ou désormais l'ancienne Knesset aussi, puisqu'elle est dissoute, eux revendiquaient en fait de pouvoir assouplir les termes de cette loi. Ils voulaient faire baisser les quotas d'ultra-orthodoxes qui devaient servir dans l'armée.
Ah oui, la Knesset qui a donc été dissoute la nuit dernière. Mais comment expliquer justement ce bras de fer qu'il y a eu entre Avigdor Lieberman et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, sachant que Lieberman était quand même ministre de la Défense sous Benjamin Netanyahou.
Alors, Avigdor Lieberman est effectivement ministre de la Défense dans le dernier gouvernement. Il a été ministre des Affaires étrangères aussi dans un précédent gouvernement. Avigdor Lieberman a été aussi l'un des proches collaborateurs de Benjamin Netanyahou à la primature lorsque celui-ci a occupé le poste de Premier ministre pour la première fois à la fin des années 90. Les deux hommes se connaissent vraiment très bien et ont l'habitude de travailler ensemble. Ce qui a changé cette fois-ci, c'est d'une part que Avigdor Lieberman était pas très très loin du seuil électoral que lors de la dernière campagne. On se demandait s'il serait représenté à la Knesset cette fois-ci. Bon, il a franchi le seuil électoral et a eu 5 députés. Mais la question finalement de sa survie politique se pose, que lui pourrait avoir voulu essayer de d'asseoir sa présence dans le paysage politique finalement en défendant aussi la laïcité face aux religieux, en se faisant l'étendard finalement d'une droite forte mais laïque par opposition à une droite religieuse qu'incarnent les partis ultra orthodoxes. Et puis l'autre facteur qui a changé, c'est que Benjamin Netanyahou est désormais sous le coup d'une procédure de mise en examen. Le procureur général a dit qu'il voulait le mettre en examen pour 3 affaires de corruption. Alors il doit encore être entendu avant que cette mise en examen ne soit formelle. Mais finalement, Benjamin Netanyahou est aussi politiquement affaibli. Ses partenaires essayent d'obtenir plus de concessions de sa part au moment des tractations de la formation du gouvernement. Et là, Benjamin Netanyahou s'est retrouvé dans une position où il ne pouvait finalement pas satisfaire les exigences de tous ses partenaires, et notamment cette intransigeance d'Avigdor Lieberman sur la question de la réforme du service militaire pour les ultra-orthodoxes.
Et donc, il y aura de nouvelles élections législatives en Israël au mois de septembre. Merci Guilhem Deltey et merci à Kevin donc, qui nous appelait ce matin de Kinshasa. Alors on va continuer d'évoquer l'actualité au Proche-Orient, mais sur un autre sujet. Nous sommes cette fois avec Tim. Bonjour Tim.
Ouais, bonjour Romain.
Alors vous nous appelez Tim, également de Kinshasa, la capitale congolaise. Nous vous écoutons Tim.
Alors, 6 djihadistes français capturés en Syrie ont été condamnés à la peine de mort en Irak. Ce n'est pas la première fois que les djihadistes français ont été condamnés en Irak. Mais ce verdict est inédit. Comment expliquer la différence des traitements alors que les autres ont été condamnés à la perpétuité ?
Alors pour vous répondre, Tim, on a le plaisir d'accueillir en studio Sami Boukhalifa. Bonjour Sami.
Bonjour.
Spécialiste Proche-Orient à RFI. Alors effectivement, depuis dimanche dernier, 6 Français ont été condamnés à la peine capitale pour appartenance au groupe État islamique. Et c'est ce que disait Tim. Avant les récents verdicts, 3 Français avaient été reconnus coupables d'avoir rejoint l'organisation État islamique en Irak. Et ils avaient été condamnés, eux, à la prison à perpétuité. Comment expliquer justement ces différences de verdicts ? D'un côté, la peine capitale, de l'autre, la prison à perpétuité.
Les profils, d'abord, sont différents. Les 3 premiers Français qui ont été condamnés donc à la perpétuité, qui équivaut à 20 ans de réclusion criminelle en Irak, en fait, il s'agissait de 2 Françaises et d'un Français. Alors, le Français, son rôle n'était pas très clair au sein de l'organisation État islamique. Et donc, c'est pourquoi il a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 20 ans. Donc c'est la perpétuité en Irak, en fait. La perpétuité en Irak, c'est 20 ans. Au bout de 20 ans, on est libéré. Et les 2 autres Françaises, ben, par leur statut de djihadiste, parce que les femmes au sein de l'organisation État islamique ne font pas forcément partie des factions combattantes. Leur rôle n'est pas celui d'aller au combat, c'est plutôt d'élever leurs enfants, donc c'est plutôt l'éducation. Et il y a aussi une différence de traitement au Moyen-Orient, en tout cas en Irak, en Syrie, chez les Kurdes et chez les Irakiens, où parfois... contrairement à ce qui se passe en Occident, au traitement en Occident, on ne considère pas forcément la femme comme majeure, comme responsable de ses faits et gestes, mais au contraire, on considère une femme djihadiste comme l'épouse d'un djihadiste qui n'a pas eu le choix dans son voyage vers l'Irak ou la Syrie. Donc c'est quelqu'un qui n'a fait qu'accompagner au final son époux, sans avoir le choix forcément. Et donc c'est pourquoi il y a cette différence de traitement. Les récentes condamnations à mort, donc cette série de 7 condamnations à mort, eh bien là, c'est différent parce qu'il s'agit véritablement de 7 djihadistes français qui sont impliqués dans les combats, qui étaient connus des services de renseignement irakiens, connus des services de renseignement français, et qui, contre qui les services ont des preuves de leur implication dans les combats dans la région de Ninive, donc de Mossoul.
Alors sur ce sujet des djihadistes français condamnés en Irak, Tim, vous aviez une deuxième question ?
Oui, la France qui a toujours condamné fermement la peine de mort, peut-elle infléchir ce verdict?
Eh bien, moi j'ai envie de répondre à cette question par une autre question. Pourquoi la France le ferait-elle?
Parce qu'elle le... s'oppose à la peine de mort?
Oui, mais jusqu'à présent, en fait, Paris a eu une position très incohérente. C'est vrai que, par principe, la France s'oppose à la peine de mort, mais c'est avec la bénédiction de Paris que ces djihadistes, rappelons-le, qui ont été arrêtés en Syrie fin janvier, début février de cette année, ont été transférés en Irak. Et à ce moment-là, lorsque la France a fait en sorte qu'ils soient transférés en Irak et remis aux autorités irakiennes, on savait très bien ce qu'ils risquaient. Donc pourquoi aujourd'hui on se retrouverait en fait dans cette position de vouloir infléchir la position irakienne? C'est vrai que les relations entre Paris et Bagdad sont au beau fixe, ça il n'y a pas de problème dans ça. Mais la position française est incohérente à plus d'un titre, parce que il y a de nombreux djihadistes qui ont été arrêtés en Syrie et qui sont toujours en Syrie détenus par les Kurdes, et les Kurdes demandent justement à la plupart des États occidentaux surtout de reprendre, de rapatrier leurs ressortissants. À ce moment-là, Paris refuse de les rapatrier, les transfère en Irak, et aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où Paris demande, demande en fait à ce que la peine capitale ne soit pas appliquée. Donc voilà. Donc à mon avis, il faudrait être davantage clair autour de cette question des djihadistes. Nous avions interviewé à ce moment-là fin janvier, début février, au moment de leur transfert, un spécialiste du terrorisme irakien qui est très très proche des services irakiens. Et lui, à ce moment-là, il le disait. Il disait, écoutez, nous, si on a accepté de prendre ces djihadistes français, c'est d'abord parce que nous sommes proches de la France. Nous savons quel est le débat interne en France, et donc nous souhaitons aider la France, qui est un pays ami, lui enlever quelque part une épine du pied en prenant ces djihadistes, les juger et les condamner chez nous. En contrepartie, on demande un soutien international diplomatique et en armement à Paris.
La position délicate de la France sur ce sujet. Merci Sami Boukhelifa, 10h22.
Merci à vous.
Et ici à Paris, on retrouve à présent Senkoun qui nous appelle de Kakama, c'est dans le nord-ouest de la Guinée. Bonjour Senkoun.
Bonjour Romain, bonjour à Sébastien Nemeth.
Allez-y justement, Sébastien Nemeth vous attend depuis Khartoum, posez votre question.
D'accord, le Soudan a entamé ce mardi 2 jours de grève générale pour obtenir la reprise des discussions sur la composition du Conseil souverain. Alors la première question, malgré la division naissante au sein des manifestants, la grève générale a-t-elle été suivie par les populations? Est-ce une stratégie à mesure de faire céder les putschistes?
Voilà, effectivement, au Soudan, une grève générale depuis 2 jours à l'appel d'un vaste mouvement civil pour faire pression sur les généraux qui ont pris le pouvoir après avoir écarté le président Omar al-Béchir le mois dernier, faire pression afin que les négociations reprennent en vue du transfert du pouvoir aux civils au Soudan. Et effectivement, vous l'avez annoncé, Senkoun, pour répondre à votre question, nous sommes en ligne avec Sébastien Nemeth, envoyé spécial de RFI à Khartoum. Bonjour Sébastien.
Bonjour mon cher Romain, bonjour Senkoun.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre Sébastien à Senkoun? Quel est le poids de ce mouvement de grève au Soudan?
Alors c'est pas facile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas d'outils statistiques pour mesurer l'ampleur de la grève. Les civils disent bien sûr que c'est un succès, mais il faut quand même nuancer. C'est vrai que plusieurs dizaines de corporations ont débrayé, la mobilisation a été forte dans le secteur bancaire, l'aéroport de Khartoum a été très perturbé, des professions libérales, médecins, avocats, etc. ont suivi le mot d'ordre, tout comme des employés du portuaire et de l'aéroportuaire. Par contre, une partie de la population, notamment ceux qui sont payés en fait à la journée, je pense aux chauffeurs, aux petits commerçants, etc. Pour eux, c'est beaucoup plus compliqué de s'arrêter de travailler, ils n'ont pas de salaire fixe, et puis le pays est quand même dans une situation économique assez difficile, donc la grève n'aurait fait qu'aggraver leur situation. Ça fait qu'à Khartoum, où je me trouve, ben oui, il y avait des entreprises fermées, des employés venus au bureau mais qui n'ont pas travaillé de la journée, des manifestations de salariés dans la rue, mais en même temps, on voyait une capitale fonctionnant à peu près normalement, avec des commerces ouverts, de la circulation, etc.
On va retrouver Senkoun pour sa deuxième question à Sébastien Nemeth. Senkoun, on vous écoute rapidement.
D'accord. Si les militaires ne cèdent pas, doit-on craindre des violences?
Votre réponse, Sébastien Nemeth.
Bah, rappelons d'abord que les civils insistent pour que leur mouvement reste pacifique. Si les militaires ne cèdent pas, les prochaines actions seront forcément pacifiques. On parle de nouvelles manifs, éventuellement d'autres grèves, voire des campagnes de désobéissance civile. Les gens arrêteraient de payer leurs factures, leurs impôts. Tout ça pour mettre l'économie du pays à genoux et forcer la main des putschistes. Maintenant, si la grève s'est déroulée généralement dans le calme, l'ambiance reste tendue. On sent quand même qu'une petite étincelle pourrait entraîner des violences. On l'a vu encore hier après-midi à Khartoum, où une altercation a conduit à une fusillade avec au moins une personne tuée par une balle perdue. Même si on peut parler d'épiphénomène pour ce cas-là, on sait que la situation reste assez volatile, Romain.
Et la principale crainte, Sébastien, elle vient du côté militaire ?
Oui, que vont décider les chefs putschistes? Est-ce qu'ils vont calmer les choses, lâcher un peu de lest, accepter que les civils prennent plus de place dans la transition? Ou bien est-ce qu'ils vont laisser la situation pourrir et même tenter de casser la révolte avec brutalité? C'est dans ces scénarios-là que les risques sont les plus forts. Depuis décembre, les Soudanais se soulèvent. Ils n'ont pas du tout l'intention de céder. Et une répression conduirait forcément au clash et probablement au bain de sang, vu l'armement lourd des soldats romains.
Merci Sébastien Nemeth à Khartoum et bonne journée à Senkoun qui ce matin nous appelait de Conakry. 10h26 ici à Paris. Allez, il nous reste un peu plus de 3 minutes pour aborder un dernier sujet d'actualité avant de retrouver la dernière édition d'Afrique Matin. Et nous sommes en ligne avec Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Ibrahim, vous êtes à Conakry, nous vous écoutons.
Oui, tout à fait. Les victimes d'une secte fondée par un nazi au Chili dans les années 60 vont recevoir une aide financière de l'Allemagne en contrepartie des crimes qu'ils ont subis. Comment cette secte a été créée au Chili il y a plus de 50 ans ?
Alors effectivement, le Parlement allemand qui a approuvé un plan de 3,5 millions d'euros pour indemniser les victimes de cette secte chilienne, Colonia Dignidad, pardonnez-moi mon accent, hein, c'est le nom de cette secte fondée dans les années 60 par un ancien sous-officier nazi et qui prend pendant 30 ans, cette secte a fonctionné comme une enclave en territoire chilien. Alors pour répondre à votre question, Ibrahim, nous sommes en ligne avec Olivier Compagnon, directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur, comment cette secte a-t-elle pu s'établir au Chili il y a 50 ans, comme le demande Ibrahim ?
Oui, c'est vrai que c'est très surprenant vu depuis notre observatoire de 2019. En fait, c'est très lié à un homme, hein, Paul Schaeffer, qui était un ancien caporal de la Waffen-SS, qui avait fait la guerre, qui a survécu, et puis qui, comme beaucoup de nazis, s'est reconverti en Allemagne de l'Ouest, lui au travers d'œuvres de charité pour les orphelins de guerre, qui en fait lui servait à assouvir ses pulsions pédophiles essentiellement. Et il a donc mené cette vie-là dans les années 50 en Allemagne, jusqu'à ce que se faire débusquer et à se réfugier au Chili à la fin des années 50 et à créer une réplique en quelque sorte de ces orphelinats, mais alors à une échelle autrement plus grande en 1961. Et donc c'est la naissance de Colonia Dignidad. C'est une véritable secte où des Allemands viennent s'installer, donc très souvent d'ailleurs d'anciens nazis qui ont du mal à se reconvertir dans la société allemande, ouest-allemande des années 60, et qui vont vivre alors entre, je dirais, culte de la personnalité pour Paul Schaeffer, abus sexuels menés par lui et, je dirais, surexploitation, esclavage de cette colonie agricole qui comptait des milliers d'hectares et qui vivait un peu, comme vous le disiez, recluse au milieu de l'État chilien. Une des choses qui est très intéressante, c'est que, elle a été fondée en 61 avec la bénédiction, ou du moins les yeux fermés, du gouvernement chilien conservateur de l'époque, mais que surtout, elle a été très protégée à partir de 73 sous Pinochet, et que même Pinochet s'en est servi pour faire un centre de torture d'un certain nombre des personnes qu'il réprimait sous sa dictature, et même un centre d'expérimentation d'armes bactériologiques. Donc c'est dire jusqu'où on est allé dans cette histoire de Colonia Dignidad, qui en fait a fini de fonctionner au milieu des années 90. Donc c'est une histoire qui a duré vraiment longtemps.
Et cette secte qui a été transformée en centre touristique agricole, c'est ce qui est aujourd'hui devenu cette ex-secte. Merci Olivier Compagnon, directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. 10h29 et 40 secondes ici à Paris. Dans un instant, la dernière édition d'Afrique Matin et ensuite le débat d'appel sur l'actualité. Que pensez-vous de l'hommage prévu pour Étienne Tshisekedi, l'opposant historique en RDC? Appelez-nous.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.